There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mukashi.audio. Bonjour à tous, je m'appelle Mia et vous écoutez Culture Miam, le podcast qui parle de choses que vous ne savez peut-être pas sur ce que vous mangez sûrement. Aujourd'hui, c'est un Culture Miam spécial interview que je suis très heureuse de vous proposer. Vous savez comme j'aime décortiquer les façons de manger dans des milieux méconnus ou sur lesquels on pourrait avoir des idées toutes faites. C'était le cas de l'interview de Anna dans l'épisode « Que mange-t-on à la cantine des Nations Unies à Kaboul ?» ou encore de l'interview de quatre lycéens très attachants dans l'épisode « Des ados qui mangent ». Aujourd'hui, on va continuer sur cette lancée et partir à la découverte des façons de manger dans l'armée française. J'ai eu la chance de rencontrer Denis lors d'un dîner il y a quelques mois. Denis est médecin militaire dans l'armée depuis 19 ans. Après quelques semaines d'intense lobbying, il a accepté avec plaisir de nous parler de l'expérience culinaire au sein de cette institution souvent méconnue. Le contenu des rations, les conserves, les repas à table ou sur le terrain, vous saurez tout, ou du moins ce qu'il peut dévoiler, sur la nourriture dans l'armée. C'est parti. Bonjour Denis.
Bonjour Mia.
Alors tout d'abord, je suis ravie de te recevoir dans le podcast et j'ai hâte que les auditeurs de Culture Miam découvrent ton métier, mais aussi et surtout le rôle que tient la nourriture dans cette institution. Je vais donc commencer hyper simplement. Je voulais que tu te présentes, nous dire quelle étude tu as fait et quelles sont tes missions au sein de l'armée.
Donc je m'appelle Denis, je suis médecin militaire, donc... J'ai fait des études de médecine à la faculté de médecine de Lyon, payé par l'armée, et donc en échange, je travaille pour eux au moins 12 ans en tant que médecin des militaires.
Et tu me disais quand on a préparé cette émission qu'en fait, c'est juste après le bac, c'est ça, que tu passes un concours pour pouvoir accéder à l'école militaire de médecine.
Oui, en fait, tu deviens militaire avant la rentrée de la faculté. D'accord. Puisque la faculté civile de Lyon, hein, mais il se trouve que nous, on y va en uniforme, puisque c'est l'armée qui nous paye la fac.
Et vous habitez à la caserne?
Le soir, on rentre à la caserne.
Ouais. D'accord. Et du coup, tu me disais que tu as fait l'armée de terre, la marine. Quel a été ton parcours, justement, dans l'armée?
Eh bien, après mon internat, où je suis devenu médecin urgentiste,
ouais.
Je suis d'abord allé dans un premier régiment dans l'armée de terre.
Ouais.
Ensuite, j'ai été muté, j'ai été médecin pour les marins. Et actuellement, je suis médecin chez les pompiers de Paris.
Et du coup, en termes de pratique de la médecine, qu'est-ce que ça implique? La différence entre l'armée de terre, par exemple, et ce que tu fais aujourd'hui chez les pompiers?
Alors, dans les forces, au sens large, hein, donc armée de terre, marine, on a deux grandes missions. En France, quand on est en France, on ouais. prépare les gars à partir en mission, donc on les suit sur leur entraînement. On a beaucoup de traumatologie du sport.
Okay.
On leur fait de la médecine de prévention aussi. Par contre, quand on est en mission, c'est soutien de combattants.
Okay.
Et donc, c'est de la médecine d'urgence, essentiellement de la traumatologie de guerre.
Okay. S'il leur arrive quelque chose pendant le combat.
S'ils prennent une balle ou s'ils sautent sur une mine, quoi. Donc, ouais. c'est de la traumatologie grave. Là, actuellement, je suis chez les pompiers de Paris, puisque les pompiers de Paris sont militaires. Donc, il y a des médecins militaires aussi chez les pompiers de Paris.
Alors, ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas d'habitude. C'est ce que tu me disais, en fait, les pompiers de Paris et de Marseille.
Oui.
C'est ça?
Sont un statut militaire, okay. alors que dans les autres villes de France, ils ont un statut civil.
Okay.
C'est juste une histoire de statut juridique.
Ouais.
Hein,
ouais, mais... ouais.
Et donc, il se trouve que les médecins militaires peuvent aussi pratiquer chez les pompiers de Paris ou à Marseille.
Ouais.
Et moi, j'ai fait ce choix parce que ça me permet à nouveau de refaire de la pédiatrie, refaire de la gynéco, des choses qu'on fait un peu moins dans les forces.
Ouais, bien sûr, vu que t'es concentré uniquement sur les maladies ou les accidents qui peuvent arriver aux soldats, c'est de la traumato.
On a que les maladies de nos patients, ouais. Donc quand on a que des grands costauds, on a moins de pédiatrie et moins de gynéco.
Moins de gynéco.
Voilà.
Ok. Alors, venons-en au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir ce que tu manges quand tu es dans l'armée, que ce soit en mission ou en caserne. Je voulais savoir, selon toi, quel est le rôle de la nourriture dans l'institution ? À quoi elle sert ? Comment elle est vue par les militaires ? Et toi, en tant que médecin, quel rapport tu as avec la nourriture quand tu es au service, justement, des soldats dans l'armée ?
Alors, en opération extérieure, la nourriture, elle a un rôle hyper important, surtout de morale.
Ouais.
Bien manger, en fait, ça améliore le moral de tout le monde.
Ouais.
Après en France, c'est quand même moins prégnant.
Ouais. Tu me parlais de Napoléon et d'une expérience.
Donc Napoléon aurait perdu la campagne de Russie à cause d'un problème d'approvisionnement,
okay.
Notamment en nourriture et puis en soutien, en munitions, tout ça.
Ouais.
Et que donc ça a été la leçon pour les armées françaises de maintenir une chaîne logistique lorsqu'on combat.
Voilà.
Et donc la nourriture, ça fait partie de tout ça. Un bon combattant qui a faim, il peut pas se battre, quoi.
Ouais, bien sûr. Plus jamais faire l'erreur de mal les faire bouffer.
C'est une légende urbaine, hein.
Ouais. Et toi, en tant que médecin, par rapport à la nourriture, t'as un rôle de prescripteur, d'accompagnement, comment ça se passe?
Ouais, alors, en France, on fait des conseils comme tout médecin généraliste,
ouais.
Parce qu'il faut que les gars soient en forme, donc il ne faut pas qu'ils prennent trop de poids s'ils ont une tendance à prendre du poids.
Ouais.
Quand on est dans des unités un peu combattantes, il y a beaucoup de gars qui sont demandeurs de conseils de nutrition, du sport.
Parce qu'ils veulent, protéines,
ils veulent, voilà, ouais. Ça, on entend parler beaucoup, les sauts de prot et compagnie, donc ça, il faut leur faire de la prévention, parce qu'ils peuvent... Ils peuvent faire des bêtises, c'est pas dangereux, mais ils peuvent faire des bêtises, donc c'est bien de leur donner des messages de prévention clairs.
Ouais.
Et puis, en opération, nous, on a surtout des conseils d'hydratation.
Ouais.
Ils ont peu accès à des cochonneries en mission.
Ouais, bah oui.
Donc, voilà.
On en parlera après, justement, de la fameuse ration militaire, qui est un peu l'image que tu peux avoir, a priori, de la nourriture de l'armée. C'est la ration. Est-ce que tu peux me dire de quoi elle est composée? Qu'est-ce que ça va être une ration type? Tu me parlais d'un roulement justement avec les rations. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Donc la ration de combat française, donc ils appellent ça la RCIR, la ration de combat individuel réchauffable.
Okay.
Parce que donc c'est une ration par bonhomme par jour.
Okay.
Et il y a de quoi la réchauffer dedans pour manger chaud.
Okay.
Donc ça se constitue une boîte en carton. Et qui fait 1,5 kg. Et dedans, c'est une boîte en carton, voilà, elle est parallépipède.
Okay.
Et elle fait 1,5 kg. Et dedans, il y a de quoi manger pour 24 heures. Il y a trois repas.
Okay.
Donc, c'est assez facile pour organiser. C'est une boîte par bonhomme par jour.
Okay.
Elle est assez bien fichue.
Ouais.
Elle est constituée dans une usine qui est à Angers. Et donc, ils mettent dedans des plats. Donc, on a deux plats. Chaud ou froid, enfin en tout cas deux plats en conserve, plus donc autour il y a plein de petits trucs, il y a des caramels, il y a une entrée, un dessert, donc faut choisir si à chaque repas
on peut pas tout avoir dans la vie,
ou alors le soir on aura moins.
Okay.
Et il y a un petit déj qui se base à partir d'un muesli, on a juste à rajouter de l'eau parce qu'il y a du lait en poudre dedans.
Okay.
Et puis voilà, il y a quelques friandises, des allumettes, un paquet de mouchoirs en
bien
papier,
sûr. Voilà. Et tu me disais aussi qu'il y avait des menus qui tournaient.
Voilà, il y a 14, il y a 14 boîtes différentes. Chaque boîte a deux repas. Il y a des trucs super sympas. Il y a des crozets, donc un truc un peu. Il y a du rougail saucisse, il y a des cannelloni de bœuf, dans mes souvenirs. Il y a l'autruche aux érelles.
Ouais. Qui cartonne particulièrement l'autruche aux érelles.
Elle n'est pas trop mauvaise. Il y a une potée paysanne aussi.
Ouais.
Voilà, tout ça, il y a des repas froids aussi.
Ouais.
Et donc tout ça, ça donne 14 menus.
Donc ça veut dire que le menu change toutes les deux semaines en fait?
Alors en fait, il y a des palettes qui arrivent sur le théâtre, donc de menu 7, de menu 8, tout le monde connaît un peu son numéro préféré.
Okay.
Et puis on essaye de pas avoir tous les jours le même menu, quoi.
Ok.
Donc ça permet un peu de, bon, des fois il y a des petit souci de log, on va avoir beaucoup le même plat.
Ouais.
Mais voilà, normalement, c'est assez varié.
Et tu me disais, après, ça va de soi, mais il n'y a pas de produits frais dans les rations. C'est que des produits dont la date de péremption ça dure des années, quoi. T'es obligé.
Ouais, elles peuvent se conserver longtemps, ce qui facilite. Sur le théâtre, on peut en faire des stocks.
Ouais.
Il y a qu'à piocher dedans quand les gars en ont besoin. Après, elles sont quand même assez sympas, parce que toutes les entreprises, ces entreprises françaises uniquement, qui envoient donc leurs plats, donc j'imagine qu'il y a des charges bien précises, mais à Angers, et c'est là qu'on constitue les boîtes.
Ouais.
Mais dans les desserts, il y a des pruneaux, c'est bien des pruneaux d'Agen.
Ouais.
Il y a un nougat, c'est un nougat de Rivesaltes.
Donc ils respectent un peu le terroir français, c'est pas l'industriel.
L'idée, elle est un peu là, sur le plan du moral. Il y a du pâté, c'est du pâté neuf, là, qui est ce pâté breton au porc, là.
Ouais.
Et donc c'est assez sympa. Le rougail saucisse, il est arrivé il y a quelques années. Ça vient de la Réunion, quoi. Enfin,
ouais.
Donc la boîte d'allumettes, par exemple, il y a une tour Eiffel dessus.
Ah oui, ouais, est un peu là pour te rappeler si t'as le mal du pays.
Exactement.
Quoi. Ok. Et parlons des calories dans ces rations, parce que je crois que c'est assez hallucinant à quel point elles sont riches. Tu me disais que c'était aussi du fait que, les gosses qui arrivent dans l'armée, ils ont besoin de plus à manger, quoi.
Ouais, alors en fait, il y a 3200 calories dans la ration, donc pour toute une journée. En fait, donc c'est à la fois, faut bien voir que dans la troupe, il y a beaucoup de jeunes et que la croissance d'un jeune homme, c'est jusqu'à 21 ans en moyenne. Donc on a pas mal de soldats qui sont encore en croissance. Donc là, il faut quand même leur apporter des calories suffisantes. Surtout
parce qu'ils arrivent genre à...
Ils arrivent à 18-19 ans, certains. Donc on peut avoir des jeunes qui sont encore en croissance, donc ça demande quand même un apport calorique. Et puis, selon l'activité qu'ils ont, donc même si c'est pas une activité combattante, mais que c'est une activité de manutention, on peut voir que sous les chaleurs du Mali, c'est très très fatigant.
Ouais.
Donc en fait, c'est des gars qui ont besoin de beaucoup de calories. Maintenant,
l'intérêt... Il y en a qui s'empêtent un peu,
voilà,
je pense.
L'intérêt de cette ration, c'est qu'elle est fractionnable, c'est-à-dire que les 3200 calories, c'est avec les caramels, avec le nougat, avec... à charge à ceux qui ont un rôle plus sédentaire, notamment le commandement dans les états-majors, de ne pas prendre forcément tous les jours tous les caramels de la ration.
Ouais.
Et là, ça peut être le souci du médecin de leur dire qu'eux, ils n'ont pas une activité si intense que ça et qu'ils peuvent s'arrêter au plat.
Vas-y, mollo, quoi.
Voilà.
Ok. J'avais une autre question. Évidemment, la façon dont vous mangez, les repas que vous mangez vont dépendre des pays où vous officiez. Tu me disais que toi, tu avais travaillé au Mali, dans le Levant, en Afghanistan. Quel impact, en fait, la situation militaire va avoir sur ce que vous mangez ? Par exemple, la taille de la base, le type d'activité, ça peut changer ?
Soit tu es dans une base assez importante, qui a un accès logistique facile. L'armée française y est depuis longtemps. Donc, c'est le cas, par exemple, actuellement à Gao, qui est la grosse base au Mali. Donc là, il va avoir carrément une cantine, quoi. Et la cantine avec des produits frais qui sont soit pris, achetés localement, soit importés de France. Notamment pour les produits laitiers, tout ça, souvent ça vient de France, c'est les marques qu'on connaît.
Ouais. Et l'eau aussi, c'est ça.
Alors l'eau, ça c'est un vrai souci dans les armées. Mettre en place un réseau d'eau, ça veut dire à la fois gérer la sécurité alimentaire de la source, mais également tous les tuyaux, également le stockage. Donc en fait, c'est de l'eau en bouteille qui arrive de France quasiment tout le temps pour des raisons de sécurité sanitaire.
Ouais, bien sûr.
Il faut bien voir que la grosse crainte du commandement, et puis du politique, c'est qu'il y ait une épidémie, par exemple, de diarrhée dans la troupe à cause d'une mauvaise alimentation, et donc c'est toute une unité qui ne peut plus fonctionner.
Ouais, gastro-générale.
Voilà, exactement. Et la ration, justement, donc dans ces trois intérêts, c'est à la fois donc d'être attrayante pour le moral des troupes, c'est d'avoir des calories suffisantes pour l'activité qu'ils ont, et puis c'est une exigence de sécurité sanitaire majeure, c'est-à-dire qu'on n'a jamais connu une infection alimentaire à cause des rations de combat.
D'accord.
À chaque fois qu'on a cru qu'il y avait une toxi-infection alimentaire, comme on dit, et que les gens étaient en ration, on a toujours trouvé quelque chose qu'on avait rajouté. Peut-être qu'on avait acheter des œufs localement pour améliorer. Mais on a toujours, c'est jamais la ration qui a pu être mise en cause. Parce qu'elle est faite de manière ultra sécurisée. C'est vraiment l'angoisse absolue des gens qui la font. Et le but, c'est qu'elle soit hyper safe.
D'accord. Et quand c'est une cantine sur place et que vous vous fournissez avec de la nourriture locale, je suppose, trouvée sur les marchés, etc., quel genre de recettes ça donne en fonction des pays ? Ça va être plus des recettes locales, du coup ?
Alors, ça peut. Ça, des fois, c'est des civils employés par les armées qui vont s'occuper de ça. Soit c'est des civils locaux, on appelle ça des PCRL, des personnels civils de recrutement local.
Okay.
Et donc c'est vrai qu'eux, ils ont tendance à nous faire des menus locaux. Donc ça, c'est assez sympa.
Genre quoi, par exemple ?
Tu peux facilement avoir des plats un peu africains quand t'es en Afrique, à base de riz, de viande. Ça, c'est plutôt assez cool. Ouais. En plus, ils sont assez contents les jours où ils font leur plat, qu'il y a une ambiance qui est assez cool. Moi, j'avais mangé de la nourriture pakistanaise quand j'étais en Afghanistan, parce que nos PCRL, en fait, ils étaient pakistanais. Donc, c'était des bons souvenirs, quoi. Puis, sur le plan du moral, ça change. Et c'est toujours sympa de s'évader 3 minutes quand t'es en mission.
Ouais.
Quoi.
Et tu me disais aussi, parce que ça, c'est les grosses bases, dans les petites bases où, du coup, il y a beaucoup de rations, tu me parlais d'une chèvre qui était arrivée sur la table.
Non, mais en fait, tu peux... Oui, en fait, quand t'es dans des petites bases et que t'es en ration tous les jours, c'est vrai que ça peut être un peu lassant, parce que c'est vrai que c'est que des plats,
des plats conserves,
en boîte. Ouais. Même si, t'as les fameux 14 menus, au bout d'un moment, en plus, généralement... On se retrouve avec 3-4 menus qui tournent seulement.
Ouais.
Et donc, on peut espérer un peu améliorer. Donc, de temps en temps, on achète une chèvre localement. On demande à un type de nous la préparer. Ou alors, il y a un gars dans l'équipe qui sait le faire. Et c'est vrai qu'on se tourne toujours vers le doc à ce moment-là pour demander d'examiner l'animal comme s'il était vétérinaire. Bon, alors tu regardes, tu prends l'air sérieux, puis tu dis qu'il faut bien la cuire. Comme ça, t'es sûr de toi.
Ok. Je voulais savoir aussi... parce que en fait, ce qui est très confortable dans l'armée d'une certaine manière, c'est que c'est un cadre et qu'on s'occupe bien de vous et qu'il y a plein de choses dont vous n'avez pas à vous soucier, et notamment la nourriture. Est-ce que il y a des fenêtres où vous vous faites un peu à manger ?
Quand t'as pas de cantine officielle, de réfectoire sympa et que t'es que en ration, c'est vrai que c'est assez fréquent qu'on essaye d'améliorer l'ordinaire avec. Des trucs locaux. Donc moi, je me rappelle, j'ai fait une mission, on était en ration 4 mois, et donc
on avait... À la fin, mon Dieu, tu devais plus en pouvoir, quoi.
Quand il y en a un qui a l'idée de faire un truc qui sort de l'ordinaire, c'est hyper sympa pour le moral. Donc je me rappelle, il y en a un qui avait trouvé des œufs, donc il a réussi à faire une omelette pour tout le monde. Ou alors, il va récupérer tous les mêmes plats de la ration pour essayer d'en faire un gros plat, et puis il va peut-être rajouter des légumes dedans... pour un petit peu le pimper, quoi.
Ouais, ouais.
Donc ça, c'est des bons souvenirs aussi, quoi. C'est des trucs, en termes de morale et de cohésion, c'est toujours assez sympa.
Qui vont changer un peu, mettre un peu des paillettes dans le quotidien.
Voilà.
Là, on a parlé des missions, quand t'es en opération extérieure, dans des pays étrangers. Quand t'es en France, sur place, en caserne, qu'est-ce que vous mangez ? Et depuis que t'es chez les pompiers, comment ça se passe aussi ?
Alors en France, c'est un réfectoire classique. Vraiment qui ressemble à un restaurant d'entreprise, ni plus ni moins. La particularité que j'ai découvert chez les pompiers là, c'est que comme les casernes de pompiers à Paris sont éparpillées dans tout Paris et certaines sont toutes petites, chaque caserne a sa petite cuisine et qui est capable d'être activée quand si par exemple il y a eu un énorme feu et que les gars ont raté l'heure du repas, on peut leur faire à manger à 3h du matin, quoi. Donc il y a des petites cuisines autonomes comme ça. Et elles sont animées par un type qui a le rôle de cuistot, donc il va faire les approvisionnements, les menus.
Mais qui est pompier en parallèle.
Alors il a le statut de pompier, mais c'est un type qui prend beaucoup, qui prend ce rôle à temps plein, même s'il continue à prendre les gardes sur les camions. Mais par contre, il peut pas être là tout le temps. Et donc le week-end, la nuit, c'est des types à tour de rôle qui prennent ça, souvent les plus jeunes, parce que c'est pas hyper sexy de faire à manger.
Ouais. Et ils sont un peu bizutés, c'est eux qui doivent passer en cuisine.
Et c'est là que des fois tu découvres que t'as des jeunes, ils sont obligés d'appeler leur mère pour savoir comment cuire un steak haché, quoi. Donc, c'est assez sympa. Et j'ai des copains qui ont quand même mangé des carottes râpées chaudes. Ouais, parce que le mec a cru que c'était des carottes à cuire, quoi. Donc il leur a fait revenir les carottes râpées à l'huile.
À la poêle, parce qu'il savait pas comment ça marchait. Est-ce qu'autour de toi, parmi les militaires, tu dirais que, à force, peut-être que c'est une idée préconçue, hein, mais à force de se taper des rations non-stop, t'as un palais qui est peut-être moins curieux, tu vois, parce qu'il y a des choses que tu connais pas. Si t'as fait des dizaines d'années dans l'armée, souvent à manger les mêmes choses.
Non, il y en a qui sont très 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 fin gourmets dès qu'ils rentrent sur le théâtre, en France, et qui quittent le théâtre justement, ils sont fanas de se refaire des petits plats. Je crois qu'il y a pas de généralité sur l'armée. Quoi.
C'était une idée préconçue. Et est-ce que, parce que je suppose que tu as pu comparer quand tu es justement sur un théâtre avec les rations et l'alimentation d'autres armées, est-ce qu'il y a de grosses différences entre les rations de l'armée française et celles des Américains, par exemple, et quels sont les trucs les plus improbables, méconnus que tu as vus dans les rations des autres armées?
Alors les Américains, ils ont des rations qui sont beaucoup moins sympas, je trouve, qui sont à base de sachets, donc là c'est un peu moins beau. Ouais. Il y a, tous les sachets ont la même couleur, il faut lire ce qu'il y a écrit dessus pour savoir ce qu'il y a. Donc en termes de, en tout cas sur le plan du moral, je trouve que c'est moins sympa. Ouais. Et dedans, c'est du snack. Il y a des M&M's, des machins, des trucs, que des marques un peu de junk food.
Ouais.
Ils ont une pizza réchauffable sous plastique.
Mais qui est censée durer 2 ans du coup?
Alors, je sais pas si elle...
C'est pas du frais, quoi.
Ah non, c'est pas du frais. Non, non, parce que ça se réchauffe avec un système chimique, c'est assez curieux. ils ont un chicken carné, enfin... Bon, après, parce qu'on fait des échanges de rations pour améliorer... Quand on est sur des théâtres, alors, c'est pas le cas au Mali, hein, mais par exemple, en Afghanistan, on était avec des Américains à côté de nous. Ouais. Donc, on échangeait des rations pour changer un peu. Et c'est vrai que les rations françaises sont très prisées, parce que comme il y a tous ces menus différents, ils aiment bien nos rations. Ouais. Donc nous, des fois, on arrive à échanger une ration française contre deux américaines.
Ah oui, ça veut dire que
il y a la cote, quoi.
La cote, ouais. Exactement. L'argus de la bouffe française.
Et par contre, ce qui est hallucinant chez les Américains, c'est leur DFAC, c'est-à-dire leur cantine. Ils appellent ça Diner Facility, DFAC.
Ok.
Et au hasard d'une mission, je me suis retrouvé à passer une nuit sur la grosse base américaine en Afghanistan. Donc c'était à Bagram, qui était une énorme base. Il y avait 30 000 personnes. Donc c'était vraiment une ville, quoi.
Ah ouais.
Et le DFAC, c'était une espèce de... Donc tout était à volonté. Donc il y avait un stand de hamburger, un stand de grillade, un stand de... Il y avait un stand de glace, mais j'avais jamais vu ça. Il y avait... tous les parfums de glace possibles, ça c'était tous les jours. Tous les jours, le militaire américain, si vous voulez, il avait tous les parfums possibles et tous les ajouts possibles, des noix de pécan, des paillettes de chocolat. Ouais, il avait, c'était, bon, on a passé une soirée là-bas, on était refait, c'est sûr. Mais
100 000 calories en 3 heures.
Mais ils ont une vraie force logistique, les Américains, parce qu'ils ont beaucoup de moyens.
Mais du coup, quand en ration, c'est des snacks, c'est lyophilisé, ça veut dire tu mets le contenu, la poudre du sachet avec de l'eau, ou c'est des trucs
ils ont des, ils ont de la nourriture parfois un peu lyophilisée, oui. Pas uniquement, hein, ils ont aussi des biscuits, des brownies, un brownie qui n'est pas mauvais d'ailleurs.
Ouais.
Mais ouais, ça ressemble un peu à la nourriture qu'on peut trouver pour l'alpinisme.
Je voulais savoir aussi quel était le meilleur plat que t'aies goûté pendant toutes tes opérations extérieures depuis ces 19 années. Est-ce que t'as un top des produits? Parce que je suppose que les 14 rations, il y a quand même un peu de roulement avec toutes tes années d'expérience.
Ah oui, dans les rations, chacun a son truc préféré.
Ouais.
Moi, j'aime bien les cannellonis de bœuf, qui sont pas mal. Voilà. Mais non, sinon, on a des bons souvenirs culinaires en mission. Moi, quand j'étais en Afghanistan, on a été invité par l'infirmerie afghane avec laquelle on travaillait.
Ouais.
Et ils avaient eux-mêmes voulu nous faire un repas afghan. Donc ça, c'était assez sympa. C'était vraiment des trucs qu'ils avaient tous ramenés de chez eux, que leur femme avait fait.
Ah, c'est trop cool.
Ça, c'est là, on goûte vraiment du vrai terroir. Ça, c'est assez cool.
Et tu me disais qu'il y avait aussi, au sein de l'armée, en ce moment, une nouvelle vision de la ration qui était en train de se mettre en place, justement parce qu'elle peut parfois ne pas être pratique. Quelle est la nouvelle direction que le rationnement français est en train de prendre?
Alors là, ils sont en train de penser... En fait, une ration, quand vraiment une troupe est en train de combattre,
Ok.
C'est pas toujours facile de s'arrêter pour faire cuire sa boîte de conserve. Et donc, il s'inspire de la nourriture un peu des astronautes ou de la nourriture des sportifs pour faire des snacks mangeables tout en combattant, quoi. Et donc là, moi, j'ai eu la chance, dans une des missions, de tester ces rations-là. Et elles étaient vraiment pas mal aussi. Il y avait, dans un tube de dentifrice, il y avait un caviar d'aubergine qu'on pouvait mettre du pain, qui était plutôt bon. Il y avait des espèces de petites gourdes avec du poulet en purée. Mais finalement, c'était plutôt pas mauvais.
Et ils choisissent certains militaires comme genre testeurs professionnels ?
Ouais, bah en fait, il nous les a donnés. Après, on a dû remplir des questionnaires. Ça se permet de voir si ça répond aux attentes. Je sais, ce qu'on avait dit, c'est que c'était super, c'était très bon. Mais qu'il ne fallait pas oublier la vraie ration quand on n'est pas en train d'évoluer en manière tactique. Parce que c'est vrai que ce moment où tout le monde sort sa boîte de conserve, la réchauffe ensemble, pour la cohésion, ça marque la journée. Quoi. Ouais. Et c'est le moment du repas, on passe à autre chose.
Ouais.
Alors que là, les snacks, c'est vraiment pour grignoter pendant qu'on combat. Quoi.
Oui, c'est vraiment... Enfin, c'est la différence. Même quand t'es en opération extérieure, t'as les moments où tu es sur le campement, la caserne, et ceux où t'es vraiment au front. Et du
coup,
la nourriture change en fonction de la situation.
Quand on met
quoi.
Un pied sur le théâtre, y a pas les balles qui sifflent, quoi.
Oui, voilà, exactement.
Heureusement.
Ouais. Faut jamais perdre, parce que c'est ce que tu m'as fait comprendre quand on en a discuté, mais faut jamais perdre de vue que l'armée, en fait, c'est beaucoup de temps mort. Enfin, il y a les combats, mais il y a aussi la vie quotidienne de militaire qui fait partie de ton identité, en fait. C'est différent des civils et c'est un statut.
Donc les états-majors, ils moulinent, ils réfléchissent sans arrêt, mais la troupe, au sens large, elle attend le moment où on lui dit d'aller faire telle offensive, on lui demande d'aller faire telle reconnaissance. Elle prépare son matériel, elle entretient, en attendant le moment où on lui dira d'aller...
Et entre, il y a aussi des gens, tu me disais, ils ont un métier, ils sont militaires, mais dans le cadre de leur travail dans l'armée...
Même en opération, il y a beaucoup, beaucoup de métiers. Il y a des mécanos, il y a des météorologistes, il y a des médecins, il y a des chirurgiens qui, eux, sont pas au contact des troupes, mais qui attendent pour opérer. Il y a des maîtres chiens, il y a des types qui s'occupent de l'essence. Il y a beaucoup, beaucoup de métiers dans les armées pour permettre à une petite partie de faire le combat.
Ouais, il y a les vétérinaires qui vont vérifier les cuisines,
tout à fait, ils passent... Alors nous, on est censés, les médecins, avec une mini-formation, on est censés jeter un coup d'œil, c'est une médecine de collectivité. Mais heureusement, on a des experts, les vétérinaires, dont c'est le métier, qui passent inspecter...
Les chiens et les cuisines.
Exactement. Ils font quand ils sont là, en plus, c'est vraiment ça leur souhait. Ils font tous les animaux et donc ils vont aussi s'occuper des... Ça, c'est pas sur la nourriture, mais ils vont aussi s'occuper des chiens errants, des chats errants, pour s'assurer, peut-être les vacciner, pour éviter qu'ils transmettent des maladies. Et puis, ils s'occupent effectivement d'aller inspecter les cuisines sur un plan de sécurité sanitaire.
Quand tu pars en mission, généralement les missions c'est quoi? C'est 3 mois?
C'est 4 mois dans les armées françaises, la plupart du temps.
Qu'est-ce qui te manque le plus par rapport aux spécialités françaises que tu quittes pendant 4 mois?
Alors moi, je sais pas si c'est très glorieux de raconter ça, mais moi je suis très fan de junk food.
Okay.
Donc quand je rentre, ce que j'aime bien c'est aller dans des fast food.
Ok, tu fais un gros domac.
Ouais, exactement.
C'est compréhensible. Hein. Entre la ration et les carottes râpées chaudes, voilà, ça fait du bien, un petit hamburger qui rappelle la ration américaine, du
Exactement.
Coup.
Exactement.
Ok. Je pense qu'on a un peu fait le tour. J'ai beaucoup appris. Déjà, je trouve ça très fascinant et voilà, c'est un métier qu'on connaît peu. C'est un métier qui est assez qui exige beaucoup. Que la nourriture à la française soit toujours un synonyme de plaisir et de convivialité, c'est quand même génial. Bravo la France là-dessus.
Ouais, c'est vrai.
Ouais. Merci beaucoup, Denis. Bon, chers auditeurs, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram et j'irai peut-être gratter des informations supplémentaires auprès de Denis. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouveau snack audio de Culture Miam. Et d'ici là, comme d'habitude, régalez-vous. Et au fait, écoutez Culture Miam sur Apple Podcasts, SoundCloud et votre application de podcast préférée. Laissez-nous plein d'étoiles et suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, @CultureMiamPodcast, sur culturemiam.fr et sur mukashimukashi.audio.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Mukashimukashi.audio.